Bien. On s'y met. On s'y met. Alors. On n'a pas l'impression qu'il fasse noir, mais normalement il fait noir. Bien. Alors, dernière séance de ce premier cycle de 5 consacré aux chefs-d'œuvre, ces inconnus célèbres. Je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à faire mon choix pour cette dernière séance, parce que quand même, des chefs-d'œuvre, il y en a beaucoup. Puis après tout, qu'est-ce que c'est qu'un chef-d'œuvre ? C'est compliqué de définir. J'ai en tout cas essayé dans les séances précédentes de choisir des œuvres un peu différentes les unes des autres, même si elles sont toutes choisies dans le domaine de l'art occidental et plutôt dans des périodes, j'allais dire, tardives de cette évolution-là. On a vu, je vous rappelle, le penseur de Rodin, et ça nous a permis de voir comment les portes de l'enfer, dans lesquelles le penseur a sa place, hein, est une sorte de catalogue de l'œuvre de Rodin. On a vu avec Vermeer, avec la laitière, hein, comment ce tableau-là, finalement, nous permettait de comprendre toute une série de thématiques, de codes de l'œuvre de Vermeer. On a regardé, vous rappelez aussi, le grand tableau de Velázquez, les Ménines, qui nous a permis de voir au-delà du tableau lui-même comment ce tableau interrogeait la question de la peinture. Qu'est-ce qu'un peintre ? Qu'est-ce que la peinture ? On a vu que les Ménines étaient un tableau assez philosophique sur la question de la peinture. Et puis enfin, on a vu, mais ça c'était l'avant-dernière fois, Impression soleil levant, rien moins qu'une des pierres d'angle, hein, de l'art moderne. Alors qu'est-ce que vous pouvez ajouter à tout ça, hein ? Enfin, il y a énormément de choses, mais en même temps, c'est compliqué. Donc je ne sais pas du tout ce que, à titre personnel, vous connaissez ou pas, et non plus quels sont les cours dans le reste du TB, si j'ose dire, qui sont donnés et qui abordent telle ou telle chose. J'avoue que je n'ai pas en tête tout ça. Donc bref, c'est un peu compliqué. Alors il fallait faire un choix, j'en ai fait un, que vous allez comprendre dans un instant. Nous passons très vite sur nos petites règles que vous connaissez, et nous allons aborder l'œuvre du jour, qui est une œuvre carte postale que vous connaissez obligatoirement, mais qu'on connaît tellement qu'à mon avis on ne la voit pas, et surtout je crois qu'on ne voit absolument pas le peintre qui est derrière, car c'est un peintre.
5, 4, 3, 2, 1.
Jusque là je ne me suis pas trompé, mais ouf, pas de problème, mais le risque était assez moyen, hein. Donc c'est en effet le bouquet du tournesol de Van Gogh. Jusque-là, tout va bien. Alors, je ne vais pas vous demander ce que représente ce tableau, parce que je pense que ça va aller assez vite. Hein. Ce tableau représente... Bravo! Je trouve qu'en quelques semaines, vous avez fait des gros progrès. Voilà, donc ça représente des tournesols. Bien. Alors, tout ça est très bien, mais moi, j'aimerais maintenant un tout petit peu plus, creuser l'affaire. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous pourriez dire, au-delà de la représentation de cette œuvre, de ce que cette œuvre peut nous dire de son auteur ? C'est-à-dire que, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on peut dire du travail de Van Gogh ? À vrai dire, la séance d'aujourd'hui va être organisée en deux temps, un premier et puis un second, deux temps qui vont avoir pour but justement de mieux comprendre le chemin qu'a parcouru Van Gogh et comment on a pu en arriver à cette œuvre-là. Tiens, pour commencer, d'abord, est-ce que vous savez où se trouve cette œuvre ? Est-ce que vous savez de quelle époque elle date ? Qu'est-ce que vous auriez à dire d'abord très techniquement sur cette œuvre, et enfin qu'est-ce qu'elle nous dit de son auteur?
Rijksmuseum d'Amsterdam,
au musée Van Gogh d'Amsterdam, au musée d'Orsay.
Non,
il y a Amsterdam,
c'est
bon, au
musée.
Bon, et une date peut-être.
Il y a plusieurs versions.
J'ai entendu quelque chose.
Oui, il y a plusieurs versions.
Il y a plusieurs versions. Une à Amsterdam, ok. Mais celle-là, qui est peut-être
la. Il y en a une à Orsay,
peut-être. Une à Orsay. Ouais. Bon, on verra. Et alors, au-delà de sa localisation, vous avez une idée de la date ?
Fin
19e. Fin 19e, ok. Au au-delà de fin 19e, qui est une notion précise, mais large. Est-ce que vous auriez...
Pardon ?
Quand il arrive à Arles, oui. Alors, en ou à ? Ça, c'est une première question. Vous savez que, ben, en fait, si c'est dans la ville d'Arles, c'est à Arles. Si c'est dans la région de Arles, c'est en Arles. Donc, on va à Avignon, on habite à Avignon, c'est-à-dire qu'on est dans la ville, et on habite en Avignon si c'est dans la région des villes.
Il a fait des séjours à Saint-Rémy aussi.
Après. Il a fait des séjours à Saint-Rémy. Alors, je demande ce tableau-là, c'est quoi ? C'est quand ? C'est où ?
Quand il était à
Saint-Rémy. Quand il était à Saint-Rémy, là ? Ouais. Et alors, justement, cette œuvre-là, et je n'ai toujours pas la date, hein, qu'est-ce qu'elle nous dit de son auteur, peut-être ?
Il est vieillissant.
Vieillissant, donc c'est un artiste âgé. Ouais.
Pardon.
Il n'a jamais été vieux.
Non.
Il est mort jeune.
Il était déprimé parce qu'il a fait des.
Et puis il a pas commencé. À
fleurs qui sont fanées.
Donc des fleurs fanées.
Est-ce qu'elle décrit peut-être son état d'âme du moment ?
Bien sûr.
Donc ce serait une œuvre qui. D'un artiste, alors certains disent âgé, d'autres disent qu'il n'a jamais été âgé. Peut-être pour combiner les deux, vous savez, j'essaie de le faire, hein. Donc tout le monde, hein. Peut-être qu'on peut dire qu'il a été âgé, que c'est l'œuvre de la fin de sa vie. C'est pas mal ça, comme compromis. Hein. Je ne suis pas un homme politique, mais à force de les entendre, on arrive à avoir leur
technique.
Je ne suis pas sûr. Enfin bref. Et donc, voilà, donc peut-être une à la fin de la vie de Van Gogh. Vous parliez d'Arles, vous parliez de Saint-Rémy. Ok. Vous disiez que c'est une œuvre qui peut parler de ce qu'il est, du fait du caractère assez particulier de la présentation. Il y a des fleurs fanées, par exemple. Hein.
Ouais.
D'autres choses qui vous étonnent, peut-être ?
C'est un peu tourmenté, quand même.
Tourmenté.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est pas un, comment dire, un bouquet statique.
Oui,
ça bouge. Hein, ça bouge. Bien. Donc, rien qu'en voyant cette œuvre, on a l'impression d'une œuvre tardive.
Il y a même apparemment une vie de. Une histoire de vie de fleurs, des pas ouverts, des très ouverts, des fanées, comme une.
On aurait une sorte de parcours de vie des fleurs. Hein. Des fleurs fanées, d'autres pas fanées, d'autres en forme, d'autres au contraire
c'est une performance, parce que c'est une performance, il n'utilise que du jaune pratiquement.
Oui, une œuvre quasi d'une seule couleur. Hein. Il y a un peu de vert, mais enfin, ça va du jaune très clair au jaune très foncé. Donc une œuvre effectivement assez radicale, en ce sens qu'elle est effectivement monochrome quasiment. Hein. Bien.
Il a fait un trait bleu pour bien délimiter deux espaces.
Oui, entre la table et le fond. Ouais.
Elle remplit toute la toile aussi.
Oui, ouais. Quelque chose d'assez envahissant, oui. Mmh. Quelque chose de très couvant, oui.
La même chose sur la cruche.
Pardon ?
La même chose sur la cruche, c'est l'inverse.
Oui, absolument, oui. Oui, là, c'est presque, effectivement, la couche est presque l'inverse du fond, oui. Oui. Ouais. Donc, une toile monochrome avec des fleurs, j'allais dire, dans tous leurs états. Une toile où la représentation envahit l'espace. Hein. Une toile vibrante, mouvante, on a l'impression que ça bouge. C'est pas un bouquet de fleurs pop statique flanqué dans un vase, mais on a l'impression que ça tourne. Ouais.
Un peu agressive aussi.
Un peu agressive, un peu piquante.
Triste aussi.
Pardon ?
Triste ?
Non.
Non.
Oui, il y a effectivement un peu en jeu entre une couleur un peu pétante, si j'ose dire, et une représentation qui est effectivement un peu en demi-teinte, avec des tournesols plus ou moins en état et en forme. Oui, effectivement. Bon. Et alors, vous connaissez un peu la vie de l'auteur ?
Oui.
Si vous aviez à résumer, à dire et à voir quand ça s'est passé, ou situeriez ça comment ? Si vous aviez donc à résumer en deux mots la vie de Van Gogh, et le moment où cette œuvre prend place dans sa vie, vous diriez quoi ?
Mais il était dépressif.
Dépressif ?
Pas encore. Même pire que ça.
Pire que ça.
Bien plus que dépressif.
Pas tant que ça, parce que...
Pas tant que ça ?
Non.
Là, il est tourmenté, mais pas dépressif.
Vers la fin de sa vie.
Tourmenté, mais pas dépressif. On est donc bel et bien vers la fin de sa vie.
Non, à l'extrême fin, parce qu'à l'extrême fin, il a des touches extrêmement apparentes. Or là, c'est pas le cas.
Donc on sera à la fin de la vie, mais pas tout à fait à la fin. C'est-à-dire à la fin de la vie, mais à l'avant-fin, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire un moment où il n'a pas encore, ce que vous disiez, c'est-à-dire une touche plus visible, plus marquée. Hein. Certes, il y a de la couleur, il y a de la... mais on n'est pas dans ce que... Je redis un peu ce que vous disiez, hein, dans ce qu'on verra peut-être plus tard, c'est-à-dire des touches très, très précises, très marquées, très visibles, soit presque de cloisonnisme ou d'isonisme plutôt. Hein, okay. Donc fin de la vie, mais pas à l'extrême fin. D'accord. Il s'est passé quoi avant? Il se passera quoi après?
Il y a eu l'internement.
Pardon?
L'internement.
Un internement. À la fin. Après, avant, là, il est interné, il n'est pas interné?
Non,
c'est avant. Avant qu'il se coupe l'oreille.
Quand il a connu Gauguin.
Donc ça, c'est un tableau de l'époque de Gauguin. Parce que donc, il a connu Gauguin. Parce que vous savez, je ne sais rien, je vais tout me dire. Donc il a connu Gauguin. Son ami. Bon. Habite ensemble. Venu de voir Arles, ouais.
Ils sont fâchés.
Ils sont fâchés.
Il souhaitait en faire son ami.
Il souhaitait, mais ça ne s'est pas bien passé. Bon.
Deux
caractères compliqués.
Vous voulez créer quelque chose ensemble.
Créer quelque chose ensemble. Créer quoi ?
Eh bien, un courant de peinture.
L'idée, c'était quoi ?
Un mouvement.
Un mouvement. Donc, Gauguin et Van Gogh se connaissent. Oui. L'idée est de créer quelque chose ensemble, oui. Une sorte de mouvement pictural.
Oui. Oui. Mmh. Oui.
Et puis, ça tourne court, alors, si j'ai bien compris ce que vous disiez.
Oui.
Ça ne va pas se passer bien. Bon. Ok. Et avant, il s'est passé quoi? Avant que Van Gogh soit... Ah, pardon.
Paris.
Pardon. Auvert.
Son frère l'a beaucoup aidé.
Son frère l'a beaucoup aidé.
Et sa belle-sœur.
Pardon.
Et sa belle-sœur.
Donc, avant, il a été à Paris. Il y a eu un passage à Auvers-sur-Oise, vous disiez.
Après.
Après. À la fin.
À la fin, chez le docteur Gachet.
Quand il va chez le docteur
Gachet.
Gachet. Très bien.
Avant, il a travaillé en Hollande.
Avant, il a travaillé en Hollande. Il est né aux Pays-Bas.
Et sa peinture était très
traditionnelle. Très
traditionnelle.
Ok. Très bien. Donc là, vous êtes en train de me dire que finalement, il y a une période française. Hein. Vous m'avez parlé d'Arles.
Oui.
Vous m'avez parlé d'Auvers. Vous m'avez parlé de... Paris, je crois. Vous m'avez parlé de Saint-Rémy.
Oui.
Mais vous me dites aussi qu'avant, il y a eu autre chose.
Oui, il a été en Hollande.
Et au départ, puisqu'il est né aux Pays-Bas.
Oui. Et au départ, il voulait être prêtre.
Il voulait être prêtre.
Il
voulait être prêtre.
Il était
très mystique.
Il était
un peu mystique et il a été suivi. Dans son désir
d'aider les autres.
Donc c'est un artiste mystique qui a été très comment dire,
contrarié dans sa vocation.
Ouais. Mmh. Mais qui avait l'idée, l'envie d'aider les autres. D'accord. Donc ce tableau-là serait plutôt de la deuxième phase de la carrière d'artiste.
Oui, en France.
Qui, vous, en termes de date, parce que les dates, on n'en a pas beaucoup parlé, hein, ça donne quoi?
80.
Les années 80. Les années 80. D'accord. Et il est né quand, à peu près? Si on veut... essayer de jeter un peu les jalons pour se rendre compte un peu de, j'allais dire, du poids de la première vie, du poids de la deuxième. Quoi. Vers 1840, 40-50. Donc il naît vers 1840-50. Il meurt vers...
Il avait une quarantaine d'années.
85.
Il avait une quarantaine d'années.
Donc, ça fait une première... Donc, vous m'avez dit qu'il y a une première vie, il y a une deuxième vie. C'est ça, Jean, que vous avez dit. Hein. La première vie, c'est à peu près jusqu'à quand? La deuxième vie commence quand? Ah, je vous titille, hein. Moitié-moitié. C'est-à-dire qu'en gros, 50-70, plutôt à première vie, Pays-Bas, hein, c'est pas ce que vous disiez.
Il arrive jeune à Paris.
Donc, il est à Paris à quoi, 19 ans peut-être, 15 ans, 16 ans, je sais pas.
Non, il est arrivé assez tard.
Ah non, assez tard. Ah ben, je sais pas.
Pardon. Il a quand même pas un certain nombre de tableaux quand il était en Hollande.
Il a pas des tableaux en Hollande.
Oui.
Donc, il faut un peu de temps pour ça.
Et puis, les années en Provence, il n'y en a pas tant que ça.
Enfin, il n'y en a pas tant que ça.
Ben non, il y en a peu.
Donc, ce qui fait que, parce que j'entends un peu deux choses. Hein. J'entends une première partie de la vie assez importante, et puis une deuxième un peu moins grande, ou l'inverse. La première assez courte et la deuxième plus importante.
Non, la première assez longue.
Non, la première assez longue, la deuxième assez courte. C'est ça l'idée.
C'est lui qui avait un frère jumeau, non ?
Un frère jumeau ? Pas jumeau.
Les parents lui ont donné le prénom d'un frère mort à la naissance.
Parce qu'il avait pas de soucis.
Ce qui explique peut-être ses troubles psychiatriques.
Ok, bien. Ah ben, donc, vous en dites des choses. Hein. Alors, on va peut-être rentrer un peu dans le dur, si j'ose dire. D'abord, je voudrais quand même vous montrer le cartel de cette œuvre, hein, pour avoir une idée plus précise de la date, du lieu où elle se trouve, par exemple. Donc c'est un tableau de 1888 qui effectivement a été réalisé à Arles, donc vous avez raison. C'est un tableau qui se trouve à Londres, à la National Gallery. Hein. Alors ça dit, vous avez raison, il y a d'autres versions. Enfin, celle-là est quand même de loin la plus célèbre, et celle qu'on voit tout le temps vendue partout, c'est vraiment un peu la version phare, hein, de ces œuvres-là. Alors, puisque vous m'avez dit qu'il y avait deux phases dans la carrière de Van Gogh, bah on va regarder les deux phases. Parce que voir ce tableau, c'est bien. Accrocher sa carte postale sur son frigidaire, c'est parfait. Mais enfin, voir un peu plus loin comment ce tableau a émergé dans la carrière du peintre, dans la deuxième partie, puisque vous m'avez dit que c'est la deuxième partie, c'est mieux. Donc on va un petit peu regarder comment s'organise la carrière du peintre. Et puisque vous m'avez dit déjà beaucoup de choses là-dessus, j'ai prévu un petit méli-mélo avec un certain nombre de diapositives, 25 je crois, où j'ai mis toute une série d'œuvres de la fin de sa vie, et on va essayer de remettre ça dans l'ordre, de voir où ça a été fait, quand ça a été fait, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça va. Enfin voilà, vous allez un peu me remettre tout ça en ordre, parce que en arrivant, j'ai flanqué mon panier de diapositives par terre, j'ai mis ça dans le panier, mais pas dans le bon ordre, et bien c'est à vous de le faire. Voilà. Alors, une première œuvre.
Ah, c'est quand il est à Léonard. C'est ça, c'est à Léonard.
Il habitait la maison d'Arles.
Donc, ça, c'est une vue de la maison qu'il habitait à Arles.
Avec Gauguin.
Ok. Avec Gauguin. D'accord. Ok, tout le monde est ok avec ça?
Oui.
Super.
Donc
ça, c'est l'église de Auxerrois. Autrement dit, par rapport au premier tableau, on est où?
À la fin.
Alors, des choses à dire par rapport à ce tableau-là?
Plus sombre.
Tout bouge. Une église, effectivement, un peu de guingois. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure un peu pour les fleurs. Vous disiez que c'était pas un bouquet statique, mais un bouquet très mouvant, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que vous disiez, c'est plus sombre?
Oui,
à tel point qu'on a presque l'impression de quoi? Presque l'impression de nuit. Hein? Presque l'impression de nuit. Bon.
Il y a une dame,
un personnage, oui.
Une.
Des petits points là.
Oui. Oui, on retrouve ce que l'une d'entre vous disait tout à l'heure par rapport à sa manière, voilà, de peindre à la fin. Vous savez, c'est une touche très visible, hein, et très, très, enfin, mise côte à côte, hein, On trouve ça aussi bien dans le chemin que dans les espèces de massifs qu'il y a au chevet de l'église. Hein. C'est une espèce de touche un peu saccadée, très très lisible, très lisible.
Mais là,
hein.
Il y a quand même un uni pour le ciel.
Oui, le ciel.
Tout n'est pas...
Non, non, non. Mais on trouve quand même cette espèce de chose dont vous parliez tout à l'heure, avec des touches côte à côte. Ok. Vous avez d'autres choses à dire sur cette toile-là? Non, c'est bon? Ok.
La même époque.
Pardon.
Oui,
voilà, c'est plutôt une scène de moisson, effectivement. Alors là, on est où? On est Arles. Pardon.
Au pied des Alpes.
Au pied des Alpes. Donc on est en Arles. Là, on peut dire en Arles pour le coup. Ok. D'autres choses à dire?
Alors, le jaune, même,
j'ai
la forme du même jaune que dans les tournesols.
Oui. Ouais.
Le jaune,
ouais.
Le jaune, enfin, un peu
cassé. Oui.
Toujours un peu tourmenté.
Oui.
Pas trop.
Peut-être moins.
Il a une ligne droite. Ouais. Il a jamais une ligne droite. Il a toujours des lignes qui sont un peu cassées, brisées. On ne voit jamais quelque chose de très droit.
Alors, on va dire un tourment un peu retenu ici, peut-être, par rapport à ce qu'on a vu dans d'autres œuvres. Hein. Donc, ce n'est pas l'église au vert qui a l'air de s'écrouler sur elle-même, c'est quelque chose qui, malgré tout, tient un peu, même si il y a une espèce d'énergie de la touche, quoi. Hein. Ok.
C'est sa chambre.
C'est sa chambre.
Sa chambre, hein. Bien. On a eu plusieurs.
Oui, celle-là, elle ne change pas après. Elle est sage.
Elle est sage. C'est bizarre chez un artiste, on nous dit qu'il est en torturé.
Oui, mais il est au départ.
C'est au départ. Donc il n'est pas torturé à l'époque encore. C'est pas sa chambre à Saint-Rémy, ça. C'est la chambre à Saint-Rémy. D'accord. Donc c'est un moment où ça va encore, quoi.
Non, pas trop.
Il est content d'être arrivé.
Et puis là, c'est sa chambre.
Sa chambre où ça? Ah, ben je sais pas.
Je crois que c'est
Saint-Rémy. Oh, c'est vrai que ce qu'on est en train de faire, c'est du cousu. Hein. Parce que ce qu'on est en train de regarder, c'est. Tiens, on n'a toujours pas parlé de date, au fait. C'est de combien d'années qu'on parle là? Pas beaucoup. Il est mort à 37 ans, effectivement. Donc on parle de combien d'années, en regardant les diapos que je vais commencer à vous montrer. Pardon. Un maximum de
5 ans.
Un grand maximum de 5 ans. En fait, les peintures de Van Gogh qu'on a toujours sont des peintures qui ont été faites au maximum sur 5 années. On ne voit à peu près que ça. À peu près par le reste. Parce que vous m'avez dit vous-même tout à l'heure qu'il y avait autre chose. Hein.
Ah oui, oui, oui.
Avant,
oui, oui,
hein. Oui. Mais évidemment, qu'on ne voit pas trop. Donc, effectivement, ce qui va être important dans ces diapos que je vous montre et qu'on va continuer de voir, c'est d'essayer de voir. Parce que là, on ne parle pas d'un siècle. Hein. On parle de quelques années seulement. Mais des années décisives. Hein. Comment les choses se mettent dans cet ordre-là, hein. Donc là... Vous me dites que c'est peut-être bien la chambre à Saint-Rémy, peut-être bien c'est là. Bon. Que là, ce qui vous frappe, c'est le côté très sage, très ordonné.
Hein?
Ouais. Ok. Ouais, il dit aussi que c'était un exemplaire, mais qu'il y en avait plusieurs. Ok. Un des tableaux qu'il a peint à la fin, là. Un des derniers, donc on est au vert, parce que Mehdi qui a au vert, c'est la fin. Donc c'est un tableau fait au vert sur Oise, ok.
Avec un ciel.
Les
arbres, c'est
pas
les arbres.
Ah, ben moi je sais pas.
C'est
non, c'est pas au vert. Ah, ils m'avaient dit que c'était la fin.
Oui, mais au vert des
bois. Attendez, parce que là on cisèle, hein. Là, on travaille mois après mois.
Non, là, il n'y a pas été longtemps.
Non, là, c'est ça.
Il n'y a pas été longtemps.
Quelques mois.
Il y a été, ouais.
Quelques mois.
Quelques mois.
Oui, dans quelques mois, ils étaient.
Là, c'est Saint-Rémy qui l'avait enfermé.
On est à Saint-Rémy?
Oh non.
Non, c'est pas Saint-Rémy.
C'est le rocher de France.
Ah, je sens des dissensions, là. Hein.
C'est dur de faire, là.
Saint-Rémy, au vert. Ah, le peut-être.
C'est pas au vert.
Non, c'est Saint-Rémy.
Non.
C'est plutôt la Provence.
Oui, parce qu'on
voit plutôt la Provence. Donc ce serait avant Auvers, là.
Oui, oui.
Et alors, ce tableau, on va voir où il se situe. Qu'est-ce qui vous frappe ?
Le ciel.
Le ciel.
Le ciel. Le ciel.
Et qu'est-ce qui frappe dans le ciel ? Pardon ?
Le mouvement.
Le mouvement, le côté tourbillonnant, oui.
La formation des étoiles.
Oui.
Traitement
de la lumière très étrange. C'est un tableau qu'on voit tellement qu'on ne le regarde jamais finalement.
Oh, si.
Si.
On voit pas le bleu sombre qu'il y avait dans la.
Ah, oui, d'Auvers. Oui, c'est vrai, on retrouve là un bleu sombre qu'il y a dans l'église d'Auvers. Tiens, ça veut dire quoi ça ?
C'est la même période ?
Alors, peut-être que c'est la même période.
Parce qu'il avait les mêmes couleurs.
Il avait un gros pour du bleu. C'est ce que c'est, quand on n'a pas beaucoup d'argent.
Voilà. Et c'est
le cas. C'est pas forcément un paysage réel. C'est sombre, donc, oui.
Ben, c'est sombre et clair à la fois.
C'est sombre et clair à la fois.
Parce que
oui, mais alors, vous l'avez appris comment ce paysage tout à l'heure ? Donc, la nuit fait jour.
Oui, oui,
voilà. La nuit fait aussi son état d'esprit.
Pardon ?
Peut-être aussi son état d'esprit.
C'est-à-dire qu'il montre la nuit comme le jour, peut-être. Ouais.
C'est
une nuit tourmentée, oui, vous disiez ?
Il y a des problèmes d'optique parce que les étoiles ne sont pas des points. Sont des...
Ouais.
Oui, mais c'est parce que c'est pour donner la brillance aux voix, pour les voir briller, les étoiles. Parce que
il y a un côté scintillant, quoi, une scintillance.
Parce que le ciel à son époque devait être le même qu'actuellement. Il devait voir vraiment les étoiles scintiller, que nous, aujourd'hui, on ne peut pas le voir à cause de toutes nos lumières.
Mm-hmm.
C'est peut-être pour ça qu'il a voulu donner la luminosité de ces étoiles.
Donc il rend la luminosité d'une manière qui peut-être nous étonne un peu aujourd'hui, nous autres urbains ou rurbains. Et donc il décrit cette scène une sorte de nuit diurne.
C'est pas dans sa tête.
Il y a beaucoup de gens, il y a énormément de peintres qui peignent la nuit.
Oui.
Ah bon ? Oui. C'est une question que je pose.
Ah, une question ?
Il y a beaucoup de peintres qui font des peintures de nuit.
Non.
En fait, c'est très curieux. Vous pouvez citer beaucoup de peintures nocturnes ?
Magritte.
Pardon ?
Magritte, il a fait des...
Magritte, qui est d'ailleurs un collègue, si j'ose dire. Hein.
Oui.
Belge aussi. Lui, il n'est pas belge, il est hollandais. Enfin, alors, oui, on dit, paraît-il, Munch. Je tiens d'un ami suédois à qui j'ai demandé l'autre jour comment on veut dire, parce que...
C'est
alors, il paraît-il,
c'est
Munch.
Munch.
Je tiens d'un suédois. Oui, ouais. Mais c'est vrai que le fait de peindre la nuit n'est pas chose... Non, pas un train, Rembrandt, par exemple. Hein. Mais Rembrandt, il est là aussi. Hein.
Oui.
Collègue, si j'ose dire. Hein. Mais voilà, il n'y a pas énormément de peintres qui peignent la nuit. Or, là, oui. Bon, on va continuer.
C'est la période japonisante, ça.
La période japonisante.
Moi, je dirais que c'est la période où il est enfermé. Parce que là, il est tout tortueux. C'est tortueux.
Ça représente quoi, d'ailleurs ?
Des racines.
Ça représente des racines.
Des arbres. C'est parce qu'on a trouvé des histoires de terre.
Un tableau retrouvé récemment ?
Oui.
Oui, non, c'est le tableau.
On pourrait le regarder dans n'importe quel
sens. Oui.
Oui. C'est comme ça que vous parlez japonisme, le côté tableau tout en longueur. Bon, les japonisants, c'est, ça peut être surtout en hauteur, mais enfin, il peut y avoir aussi des espèces de panoramas très allongés. Donc un côté un peu japonisant, un peu étrange. Oui.
On le connaît.
Pardon. Ah, je sais, de toute façon, Van Gogh, on montre toujours les 15 tableaux qui ont de l'arbre. C'est très étrange. C'est vraiment un peintre qu'on connaît pour sa production des 5 dernières années. Le reste, on ne parle jamais, ou très peu. Et dans les quelques dernières années, on montre toujours les mêmes. Celui-là, on ne le montre pas. Pourtant, il est capital.
Il
est super.
Il est presque abstrait.
Il est quasi abstrait. Et c'est un tableau essentiel. Vous allez voir pourquoi. Enfin, vous avez une idée pourquoi il est essentiel? Non.
Il y a des techniques avec ces traits, on voit sur la croix.
Effectivement, on y voit un peu la conjonction de ce qu'on a pu remarquer ailleurs, qu'on a peut-être vu à Auvers d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Il y a des choses lisses, normales, entre guillemets, puis ces espèces de touches, effectivement. Hein. Oui, on a un peu cette conjonction-là.
Il a pu le faire dans certains moments où il avait des crises absolues et qu'il était. Enfin, je crois que c'est un tableau qui dit quelque chose de son état à...
ouais.
au moment où il a... Parce qu'il a eu des crises et des délires, oui. et des tas de choses.
Oui.
Et ça fait quand même un peu...
Oui, oui. Oui, effectivement, l'état de Van Gogh était en dents de scie. Oui, hein, donc il y avait des moments avec des crises, des moments où il n'y en avait pas, ou moins. Enfin bref, c'est un malade.
Le travail de la couleur.
Il n'y a pas
de volonté de réalisme dans les couleurs.
Non, effectivement, quelqu'un disait que c'est presque abstrait. De fait, on a là une œuvre qui a un côté surréaliste, presque. Oui. Hein. Il y a un côté Max Ernst. Enfin, mais ce n'est pas du tout les couleurs et la touche, mais... Voilà.
Moi, je suis désolée, c'est réaliste. Hein.
Réaliste.
Oui, c'est observé.
Les racines, même si c'est ça, bien, sur un tableau, c'est très réaliste.
Très réaliste.
Mais effectivement, ça part sur l'abstrait.
Voilà. C'est, disons que c'est peut-être...
Le cadrage fait qu'on n'a pas la notion voilà. de ce que c'est.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est peut-être... une manière de montrer quelque chose de tout à fait réel et même de très trivial qu'on ne regarde jamais, des racines, et de le faire avec un cadrage, une sorte d'insistance qui, elle, est inhabituelle. En fait, il rend abstrait quelque chose de super réaliste. Mais vous savez que les surréalistes, ils sont surréalistes. C'est-à-dire qu'ils vont plus loin que la réalité à partir de la réalité. Quelque part, c'est ce qui se passe là. C'est une réalité super triviale, des racines partout. Vous creusez des racines. Donc là, il nous montre des racines, mais ce que l'on regarde et que l'on voit et que l'on ne peint jamais. Pourquoi peindre des racines, il y en a partout. Donc finalement, il s'intéresse à ce à quoi on ne s'intéresse pas. Et il le cadre d'une manière, là aussi, tout à fait inédite. Donc ça donne ça.
Il est grand, ce tableau ?
Oui,
assez grand.
Après ça, hein. Je crois qu'il fait un peu, je n'ai pas l'image en tête, mais il doit faire un peu plus d'un mètre de large. Un tableau vraiment très important. Bon, on va voir pourquoi. Rebelote, encore une nuit. Moins tourmentée. Une nuit plus calme. Vous la mettriez, alors, encore une fois, on va essayer un peu de classer tout ça. Hein. Vous mettriez ça par rapport à ce qu'on a vu, à quel moment
quand il est dans le sud.
Quand il est dans le sud. De toute façon, on ne regarde, à vrai dire, que des œuvres du sud. Donc on regarde ces... 4-5 petites années, hein, où il est dans le sud, et voilà. Hein, donc, effectivement, il est dans le sud. Vous disiez que c'était plus doux hein, que...
Oui, ouais. il y a moins ces traits appuyés.
Oui, oui. Alors, il y a quand même des traits appuyés au premier plan, vous voyez, mais...
Oui, mais c'est moins fort.
Oui. C'est peut-être moins un peu tournoyant. Vous rappelez de ce que vous appeliez tout à l'heure les nuits étoilées, hein, où il y avait une espèce de tempête dans le ciel nocturne.
Le ciel est beaucoup plus calme.
Là, le ciel est beaucoup plus calme. Il y a la même scintillance des étoiles, par contre. Hein.
Mais il y a deux personnages.
Il y a deux personnages.
Oui. C'est
des bateaux.
Ouais.
Il y a quand même un stock de bleu.
Oui, ah oui. Stock de bleu, il l'a utilisé. Hein. Mais là, il avait encore du jaune.
Mais c'est presque uniquement par tâche, là.
Hein. Oui.
Mais c'est encore la
tâche. Oui.
Il a basculé complètement.
Ouais. Dans la partie de la oui. Ça rappelle des choses qu'on a vues.
C'est encore la nuit.
C'est la nuit.
Il y a une partie d'ouvert. C'est très équilibré.
Très équilibré. Oui, c'est un tableau finalement assez calme hein, par rapport à ce qu'on a
vu.
Pas du tout, pas du tout la même ambiance. Hein. C'est la nuit,
oui,
mais on n'a pas la tourmente qu'on a vue ailleurs. Hein. Oui, tout ça est assez équilibré. Voilà, serein, une sorte de sérénité. Ouais.
Sérénité.
Il y a un petit peu qui se
promène sur la plage.
Et effectivement, il y a deux personnages devant, un bras dessus. Voilà, la tranquillité des personnages se conjugue à la tranquillité du spectacle paysager. Bien.
Ah, c'est
une salle de bistrot avec un billard, ok.
Bah, c'est là où il logeait, non ?
Pardon ?
C'est pas là où il logeait ?
Peut-être là où il logeait. On est où ?
La lumière à l'eau.
Oui, la lumière à l'eau, c'est quoi ça ? Ça veut dire quoi ?
C'est la nuit.
C'est la nuit. Encore la nuit. Bah, dedans, hein. C'est un octambule, votre Van Gogh.
Il dormait pas. Il dormait pas.
C'est lui, lui, et lui, il dormait pas.
Il
dormait
pas.
Dans les jours.
Non, même pas.
Donc on est dans un bistrot, dans une salle de billard. Un bistrot qui correspond à l'endroit où il logeait, peut-être. On est où, là ?
Arles.
Donc, on a vu des choses d'Arles.
C'est bizarre, parce que c'est pas plutôt dans la quand il était enfermé, là, parce qu'on dirait plutôt... Là, une personne habillée en blanc, ça faisait un peu infirmier.
Ah, donc on serait dans le l'hôpital.
Il n'y a pas de bouteille pour les...
Il n'y aurait pas de bouteille dans les verres.
Oh, ben, un petit coup. Ça peut être de l'eau.
On enlève les verres.
Ou alors c'est un infirmier qui voit avoir un petit coup entre.
Voilà, les... c'est ça.
Bon, je sais pas, hein, moi je.
Ça veut pas dire qu'il a chargé
ses patients. Hein, pardon.
Il a chargé ses patients parce qu'ils sont tous affalés sur
la chaise. Oui, à droite en particulier, à gauche, ouais.
Il faut dire qu'à 1h15 de la nuit.
Ouais.
Est-ce que ça peut être dans le café qui est sur la place en Arles, là, il y a un café jaune, oui, il a peint aussi.
Est-ce
que
ce serait ça
oui. Par là, dans ce café-là, sur la place de l'Orpinus, là.
Oui. Donc ce serait ça, peut-être.
Je sais pas.
Peut-être.
Ok. Oui, ça peut être
les mêmes chaises que sa chambre.
Ouais. Oh, il l'a amené avec lui, peut-être. Hein. Non. Ok. Ben, dites donc, ça vous inspire, Van Gogh, hein.
Oh,
alors là, on est où ?
On est à la fin.
On continue à peupler ces quelques années. On est à la fin des noms. Parce que le docteur Gachet, c'est qui, c'est quoi, c'est quand ?
C'est
le docteur qui l'a suivi. Ah, ouvert. Attendez, vous parliez de Saint-Rémy tout à l'heure.
Non, mais là, on est en vert sur
l'air.
Là, on est en vert.
Il est mort en
90,
donc c'est quelques années. Un ou deux ans avant.
C'est un ou deux ans avant.
Quelques mois avant.
Donc, le docteur Cachet qui l'a suivi de Saint-Rémy à Auvers. Ah non. Pardon.
Il s'est fait payer un tableau.
Il s'est fait payer. Il lui a acheté un tableau, le docteur Cachet. Ah, il se faisait payer en tableau par Van Gogh.
D'accord.
Ok.
Moi, je sais plus
si c'est
vrai que.
Ah
non, moi, je pense que c'est
ouvert. C'est ouvert ? Oui. Arles ? Donc, c'est le docteur Cachet, soit Arles, soit un Saint-Rémy, soit Auvers. Comme ça, c'est dans les quelques années. Pardon ? C'est les derniers moments. Et donc, un docteur qui soigne Van Gogh et qui se fait payer par lui, par des tableaux.
Il ne s'est pas payé, il n'avait rien, c'est Van Gogh qui
donnait.
Il donnait
déjà.
Il donnait, c'était...
Ok. Super.
Ça, c'est l'asile à Saint-Rémy-de-Provence.
Et ça va à tout le monde, ça ?
Oui.
Oui. Donc ça c'est l'Asie à Saint-Rémy. Non.
Il y a toujours ces traits très appuyés, jamais.
Non.
Les colonnes antiques, c'est quand même plus antique entre guillemets.
Midi, en étant midi alors, ouais. Bah, c'est ce qu'on disait, c'est l'Asie de la Saint-Rémy. Non.
C'est pas
ça. Ben, je ne sais pas.
L'arbre est incroyable. L'arbre.
C'est tout à l'heure que je vous dirai.
L'arbre est incroyable.
Pour l'instant, je vous laisse pas toucher. Hein.
C'est un chupin.
Avec un certain.
C'est un arbre du sud.
C'est un arbre du sud.
Ça ressemble à un pain.
Oui, c'est ça.
C'est un pain.
Il y a du mistral.
Allez, ça, Rémi.
Allez, on est à ça. Super. Très bien.
On voit le billard de tout à l'heure.
Et là, il y a des volumes.
On retrouve les couleurs de tout à l'heure.
Il y a des volumes de fumée.
Ah, des volumes de fumée, bah oui. Entre temps, il y en a quelques-uns qui se sont réveillés.
Ça ressemble à Gauguin.
Il y a un verre d'absinthe. Oui. Vous m'avez parlé de Gauguin tout à l'heure. Hein. Donc ils étaient très proches, si j'ai bien compris.
À une époque.
À un moment.
Par contre, le style, ça fait Gauguin.
Bah oui, c'est ce que vous disiez, ça fait Gauguin.
Parce que c'est un plat.
Bon, mais enfin, s'ils étaient très proches, ça c'est plus expliqué, non ?
Non.
Non, c'est pas son style.
C'est pas son style. Donc c'est pas lui.
Non, mais si.
Ah ben. J'aurais donc mis des choses qui sont pas de mon goût.
Ça nous est pas capable.
Pas sympa.
Non, mais c'est pas.
Ça fait pas mon goût. Même l'Arlésienne à droite, non ?
C'est quoi la logique ?
Non, l'Arlésienne, vous trouvez que c'est pas mon goût, ça ?
Non.
Bon, bah écoutez.
Une autre version.
Oui, on l'a vu tout à l'heure. Hein, vous l'aviez déjà dit qu'il y avait plusieurs versions. C'est une autre version. Il a fait le ménage entre temps. Vous ne voyez pas quoi ? Donc il a changé les tableaux de Sully. Là on voit ce que c'est, alors que dans l'autre on ne voyait pas trop. C'est un peu plus rangé peut-être que le précédent. Plus lumineux. Pourquoi est-ce qu'on a deux exemples comme ça?
C'était facile.
Sa chambre. Oui. Voilà, donc il est dans sa chambre, donc il a fait une fois, l'affaire deux fois.
Il avait peut-être des obsessions. Hein.
Ah, des obsessions.
Des couleurs, non, pas des
essais. On a déjà vu des cas comme ça, où vous avez des choses plusieurs fois.
Oui, les essais.
Ouais. Oui, mais là, c'est pas simplement un ciel étoilé, c'est vraiment la même chose.
Il a peut-être changé.
Pas tout à fait les mêmes couleurs.
Non, voilà.
Il a fait des essais techniques.
Oui. Plus intenses. Ouais. Donc en fait, c'est la même chose. Mais vraiment exact, vraiment presque. Alors les tableaux changent, et ça. C'est vraiment la même chose, mais pas les mêmes couleurs. C'est-à-dire que c'est la variation sur un même thème. D'accord. Donc en fait, c'est pareil parce que c'est vraiment le même sujet du même endroit, etc. C'est pas comme nos nuits avec les étoiles, hein, où c'est deux paysages complètement différents, hein, un paysage sur l'eau, un autre pas du tout, ça. C'est donc complètement différent, hein, des paysages là, c'est vraiment la même chose, mais pas pareil, parce qu'il y a des couleurs qui changent, quelques détails qui évoluent. Ok. Vous avez d'autres cas comme ça dans l'œuvre de Van Gogh, de séries, vraiment de choses à peu près identiques.
L'église au vert.
Les iris. Les tournesols. Ok. Là, vraiment, vous n'y êtes pas mieux dit. Hein. Les iris, on est où là? Parce que je continue à vous titiller, moi je veux que vous me disiez sur les quelques dernières années de sa vie.
Est-ce que c'est du Van Gogh?
Ah, est-ce que c'est du Van Gogh?
C'est écrit Vincent.
Mais tout le monde ne sait pas lire ici, mettez-vous à la place. Alors.
C'était pas le Vincent.
Donc une œuvre très japoniste aussi, hein, qui représente des iris. Ok. Alors où est-ce qu'on est? Ah, Ok.
Je
ne
sais pas.
Ça, c'est un autoportrait.
Ça, c'est un autoportrait.
C'est pas encore
ça. Un de ses autoportraits.
Non.
Je ne sais pas si c'est Van Gogh, ça.
Ah, ah non, c'est Gauguin qui a peint Van Gogh.
Oui, oui, je crois.
C'est Gauguin, parce que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu un lien entre les deux.
Oui, oui, oui.
C'est Gauguin.
Donc c'est Gauguin qui a peint Van Gogh.
Et tout à l'heure, c'était Van Gogh qui peignait Gauguin.
Et tout à l'heure, on avait Van Gogh qui peignait Gauguin. Donc quel.
Là où on avait la femme.
Là où il y avait la dame. D'accord, c'était Van Gogh. Peignant Gauguin.
Et là, c'est Gauguin qui peint Van Gogh.
Là, c'est Gauguin qui peint Van Gogh. Donc là, on a une œuvre de Gauguin qui montre Van Gogh. Tout à l'heure, le billard, le café, c'était une œuvre de Van Gogh à la manière de Gauguin. C'est ça que je veux dire.
Oh, mais on l'a vu, c'est...
Ah, vous aviez dit que c'était... Ben,
et là, il peint les tournesols.
Là, il peint des tournesols. C'est le tableau qui m'intéresse. Hein, il y a même le modèle. Ok.
Ça aussi c'est japonisant.
Ça c'est japonisant. Et là aussi, ce que je vous ennuie avec ça, mais moi je veux savoir où ça a été fait ça. Parce que là, nous sommes dans l'expertise artistique. Nous travaillons sur quelques années seulement. Et moi, je veux savoir où ça a été fait, ça.
Alors, il y a de l'eau. En Provence.
En Provence, ok. Ouais. Donc, pas au vert, c'est déjà ça.
Ah, ou à au vert, parce que ça a été
marqué derrière.
D'après les maisons, là, avec les toits pointus, peut-être ça serait plutôt au vert.
En Camargue, ça.
En Camargue, donc en Provence.
Mais bon. Qu'est-ce que c'est comme arbre, là? Ça dépend de ce que c'est comme arbre.
Ben ça, si je le savais. Peut-être pas, d'ailleurs.
Il
sème, le monsieur, là.
Il sème.
C'est un semeur.
Et c'est l'été, parce qu'il y a un gros soleil.
Bien. Donc ça vous rappelle quoi, ça, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais ça vous suggère quoi, décidément? Voilà, qu'il a fait des séries avec vraiment le même sujet, vu du même endroit, etc., mais avec quand même des petits changements. Là, les tournesols ne sont pas au même endroit, etc. Il y a donc chez lui, comme ça, des séries récurrentes, hein, la chambre, les tournesols, etc. Vous l'aviez déjà dit, on le voit. Super.
C'est pas la
peinture d'aquarelle. C'est une peinture. Oh, je suis désolé, l'image est détestable.
Madame.
C'est, l'image est très mauvaise. Hein. Le fond est jaune pas. Normalement, là, vous voyez quasiment rien. Hein.
On voit blanc.
Vous voyez ça blanc, alors que c'est jaune. Voilà. Ouais. Bon, ça vous rappelle quelque chose, ça? Donc, c'est à nouveau un tableau de Gauguin. Quoi.
Non.
Alors, je vous montre un tableau, vous dites c'est pas Van Gogh, c'est Gauguin. Là, je vous montre un tableau de Gauguin, vous dites c'est Van Gogh.
Il faut
me mettre les idées au clair.
Non, on a dit Gauguin peignait Van Gogh devant sa toile des tournesols. Là, on a dit que c'était Gauguin.
Oui. Mais tout à
l'heure. Mais l'Arlésienne dans le bar, on a dit aussi que c'était.
Oui, mais voilà. Et alors là, qu'est-ce que c'est là?
C'est une dame.
C'est la même.
C'est la même.
C'est la même dame que celle qu'on a vue tout à l'heure.
Elle
peut être
peinte par deux personnes.
Ah, donc elle a été peinte par deux personnes.
Oui, elle a été peinte deux fois.
Ou elle a été peinte. Elle peut être peinte.
Elle fait partie de
la série. Donc vous n'êtes pas simple. Hein. Donc c'est une dame dans un jardin devant un buisson, peut-être.
Non, c'est
du papier peint. Ok. Donc elle est dans sa maison devant du papier peint. Ok. Bon, c'est tout ce que ça vous inspire.
Ouais.
On arrive au bout.
Des travaux des champs.
Ouais. Pas des vendanges. Tableau pas connu, ça. Pourtant fondamental.
Beaucoup de rouge.
C'est
vrai
qu'on a du mal à voir le sujet. Hein.
C'est pas évident.
C'est Van Gogh, ça?
Pardon?
C'est Van Gogh?
À votre avis.
Je sais pas.
Vous êtes tenté de voir un Van Gogh.
J'essaie.
Donc c'est peut-être bien un Van Gogh qui représente quelque chose qu'on a du mal à définir.
Une récolte.
Donc attribué à Van Gogh, récolte. Le soleil. On est dans le sud, on est dans le nord.
Dans le sud.
Donc un tableau attribué à Van Gogh qui représente sans doute dans le sud une récolte. Ça vous va, ça? Bien.
C'est pas son frère.
Son frère. Qui s'appelle comment son frère?
Théo.
Donc un portrait de Théo.
Là c'est facile, Vincent Arles.
Donc, Vincent Arles.
Là.
Trop facile.
89. Alors là, c'est en
franchement, là, je vous mâche le boulot.
Là, on a trippé.
Bon, le portrait de Théo par Vincent Van Gogh à Arles en 89. Voilà, vous savez ce qu'il en est. Hein. Bien, donc là vous connaissez tous, ok, très bien. Bon, alors là, c'est Van Gogh, c'est Gauguin.
C'est bon. C'est pas la logeuse, c'est pas la dame.
Oui, je crois que c'est la logeuse,
cette
dame. C'est un jardin.
C'est
un jardin. Oui,
parce que regarde les maisons.
Alors, on est où, là?
Auvers-sur-Oise.
On est Auvers-sur-Oise. C'est le printemps Auvers-sur-Oise.
C'est pas à Montmartre, quand il est interné.
Oui, mais vous m'avez dit qu'il était interné.
À Saint-Rémy. Ça, c'est sûr. Oui.
Donc, c'est un jardin à Saint-Rémy.
Non, c'est pas une infirmière.
C'est pas une infirmière. C'est pas une infirmière. Elle est en blanc, elle a un petit chapeau à droite. Hein. À Saint-Rémy, il fait chaud. Hein. Non, bon.
Mais on retrouve les arbres un peu tourmentés.
Donc les arbres de Saint-Rémy tout à l'heure. Il y a de la dissension. Hein.
Oui, c'est dur. Très, très dur.
Avec les corbeaux, on est en Provence.
Il est pas un peu affadi.
Il est un peu affadi. Il est plus fort que ça. Pardon. Oui, il est un peu, mais ça c'est le réponse de vidéo proche. Bien. Beau ça. Ah, c'est bon. Bon, et ça vous inspire quoi?
Les idées qui fusent.
C'est le contexte, les tourbillons, c'est ça?
Le regard aussi.
On trouve tout le temps chez lui, ses courbes. Il n'a jamais des courbes. Tout le temps, partout, il faut qu'il fasse des courbes.
Tout le temps, pas tout le temps. Vous vous rappelez, il y a des choses où on a vu que c'était au contraire assez calme. Mais c'est vrai qu'il y a en tout cas certains moments où c'est assez tourbillonnant, effectivement. Oui. Hein.
Il est très habité, quand même.
Très habité. Oui, on a l'impression que les courbes dont vous parliez sont effectivement la traduction de ce qu'il y a à l'intérieur. Bien. Ah. Donc c'est tout à fait clair pour tout le monde. Non ? Alors peut-être remettre un peu ça dans l'ordre. Ça vous va ? Bien. Alors. Peut-être un peu pour remettre les choses dans l'ordre. Van Gogh va effectivement passer les dernières années de sa vie entre trois lieux. Hein. Vous les avez bien identifiés. Il y a Arles, il y a Saint-Rémy et il y a Auvergne. Hein. Donc il y a effectivement ces trois moments-là. Et c'est très très court. Hein. Il va passer à Auvergne 2 mois seulement. 2 mois. Pas 50 ans hein, ou 3 ans. Non, 2 mois. Il y arrive en mai. Il meurt en juillet 90. Avant ça, il était effectivement à Saint-Rémy. Donc il a été à Saint-Rémy pendant une année. Et puisqu'il est arrivé à Auvergne en mai 90, c'est-à-dire qu'il a été à Saint-Rémy jusqu'en mai 90, mais depuis mai 89. D'accord ? Et avant, il était à Arles un an et demi. En fait, il est arrivé à Arles en 88. En fait, on parle là de
3 ans.
Donc c'est extrêmement court. Et c'est marrant parce que l'œuvre de Van Gogh, vraiment, on en parle toujours à partir de la production de 3 années. Tout ce qu'on a vu date de cette période-là. Alors, j'ai remis un peu les diapos en ordre, grâce à vous. Effectivement, vous aviez bien vu, hein, ça c'est Arles, c'est bel et bien la maison jaune à Arles, c'est un des lieux, parce que, à vrai dire, il a habité dans plusieurs lieux, ça a beaucoup bougé, etc. Un des lieux où il a habité, cette fameuse maison jaune, qui d'ailleurs n'existe plus aujourd'hui, mais qui est un des lieux d'attache de Van Gogh à Arles. Ça, c'est Arles aussi. Hein. Effectivement, Arles, il a représenté comme ça, en Arles en tout cas, beaucoup de scènes de moisson, etc. Et ce tableau fait partie. Enfin, bon, là, vous avez raison, à la lumière, un truc qui est là, évidemment, beaucoup, beaucoup aimanté vers la Provence. Il était à Paris avant, vous l'avez dit. Hein. Donc, il est allé de Paris à la Provence, aimanté par ce regard, cette vision de la lumière. Hein. Ça, c'est également de la période arlésienne. Donc c'est effectivement Sommer, vous l'avez bien dit, c'est un tableau très, très japonisant, hein, avec un cadrage très particulier. On est là dans effectivement quelque chose qui marque l'intérêt de Van Gogh pour ça. Ok. Et alors ça, ce tableau, il est absolument important. Ce sont des vignes. Hein. Ces tricoles sont effectivement des vendanges, vous l'avez un peu dit d'ailleurs. Hein. Ce sont des vignes. C'est à Arles, à côté d'Arles, sans doute du côté de Montmajour d'ailleurs. Et l'œuvre-là est intéressante parce que c'est a priori le seul tableau que Van Gogh ait jamais vendu de son vivant. Il n'a pas eu 50, il y a eu celui-là. Parce que vous savez que les tableaux que faisait Van Gogh, beaucoup d'entre eux, il les expédiait à son frère, Théo, dont vous avez parlé, qui habitait lui à Paris. Et Théo essayait de découler voilà, un peu les œuvres de son frère. Et ça ne marchait pas trop bien. Hein, même si, de temps en temps, il essayait d'exposer ça dans des expositions de peinture, mais ça ne marchait pas vraiment. Jusqu'au jour où, quand même, une personne qui s'appelle Madame Bosch, de la famille Villeroy et Bosch, cette famille. Hein, Madame Bosch était d'ailleurs la sœur de Monsieur Bosch. Monsieur Bosch, ou Bock, je ne sais jamais ce qu'on dit, était un peintre que Van Gogh a bien connu, dont il a fait d'ailleurs le portrait. Et sa sœur, Anna, était peintre aussi, mais aussi collectionneuse. Elle a eu une grande collection d'œuvres, notamment impressionnistes. Alors Van Gogh n'est pas un impressionniste, mais enfin il était un peu lié à ce mouvement, il a connu un certain nombre d'impressionnistes d'ailleurs. Et c'est elle qui a acquis à Paris cette œuvre-là, pour sa collection. C'est le seul cas d'une œuvre, semble-t-il, que Van Gogh n'ait jamais vendue son vivant. Alors il en donnait souvent pour payé, entre guillemets, par exemple, sur ses médecins, etc. Mais enfin, vendu, c'est celle-là. Donc la vigne rouge, a un tableau qu'on ne voit jamais. Hein. C'est un tableau important pour ça. Alors, vous avez bien parlé de la chambre tout à l'heure, bien dit qu'il y avait plusieurs raisons, il y en a 3. Hein. La première, la deuxième, ça c'est la deuxième. Voilà. Et il y a effectivement des petits changements, mais pas énormes. Hein, vous voyez, les tableaux ne sont pas tout à fait les mêmes. Effectivement, vous avez raison. En fait, le parquet, pas tout à fait, les couleurs, vous l'avez dit, ne sont pas les mêmes. Hein, voilà. Et vous avez bien senti le fait qu'il y avait une sorte de calme. En fait, une des raisons pour laquelle, visiblement, la chambre est un thème, c'est justement ça, ce que vous disiez, cette espèce de côté j'allais dire sécurisant, quoi, hein, de la chambre, qui fait que il l'a peint, il l'a repeint, il l'a re-repeint. Là. Alors là, vous l'avez bien noté aussi, cette fameuse nuit étoilée, hein, c'est ça ce tableau qu'on appelle la nuit étoilée. Ah, voilà. Il a décidément beaucoup peint la nuit, hein. Ça c'est quand même une caractéristique de ce peintre, ça c'est curieux. En fait, il l'a même dit dans des lettres, notamment son frère Théo, il estimait que la nuit, sur le plan des couleurs, était aussi intéressante que le jour. Donc pour lui, ce n'était pas le jour, on voit tout, la nuit, on ne voit rien, c'était la nuit, et il dit même, non, j'espère bientôt que je vais peindre mon tableau de nuit, parce que j'estime vraiment que c'est capital. Donc chez lui, la nuit, c'est un sujet, ce n'est pas un anti-sujet qu'on prend faute de mieux, c'est un sujet en soi, et plutôt plus intéressant que le jour. D'où le fait qu'il a peint beaucoup, beaucoup de tableaux figurant la nuit, vous en avez ici un exemple. Alors ça, vous l'aviez bien vu, c'est effectivement un tableau qui représente, enfin qui n'est pas de Van Gogh, qui est de Gauguin. Donc Gauguin qui effectivement représente Van Gogh en train de peindre le fameux tableau qui est à Londres aujourd'hui, hein, à la galerie. Vous l'aviez bien vu, bande de petits malins. Vous aviez bien vu aussi que ça, c'est un tableau fait dans la nuit, toujours, hein, toujours la nuit, dans un bistrot où il y a un billard. Et vous aviez bien vu aussi que l'autre vue en question était de bel et bien de Gauguin. Moi qui pensais vous piéger, j'en ai été pour mon argent. Un tableau donc de Gauguin, fait exactement dans le même lieu, avec le billard. Hein. Mais ce qui est amusant, c'est que Van Gogh a absolument repris le détail de Gauguin dans sa fameuse Arlésienne. Hein. Voilà, c'est vraiment c'est la même. Hein.
Voilà. Mais c'est pas le même style.
Alors c'est pas du tout la même manière de peindre, mais c'est exactement le même sujet. Et d'ailleurs Van Gogh, il a fait 4 versions de ça. Hein. Là je vous en montre une, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a 3 autres. Voilà, même G. Donc il a fait 4 versions de ça. Toujours cette manière, ils sont les mêmes avec les couleurs qui changent comme dans la chambre. Hein. Donc vous voyez cette espèce de côté obsessionnel. On fait une version, on fait une deuxième, on fait une troisième. Quelquefois il va jusqu'en faire plus encore. Bref, c'est une des caractéristiques de Van Gogh. Et il l'a fait même là, mais un peu différemment. Et ce tableau-là, il y en a au moins 2 versions. Donc, c'est assez... Ah, d'ailleurs, ça, c'est la version où je suis tombé. Ce n'est pas celle du maître, c'est celle d'Orsay. Ça. Je suis tombé. Bien. Alors là, c'est pareil. C'est une autre personne qu'il va avoir l'occasion de croiser souvent à Arles. Madame Roulin, c'était l'épouse du facteur. Et voilà, il a représenté, je crois qu'on connaît 5 versions de ce portrait-là. Vous voyez, espèce de manière qui à chaque fois change, pas du tout par les formes qui sont les mêmes, hein, mais par la couleur, le détail du papier peint du fond, etc. Hein. Ok ?
Ça s'appelle la berceuse.
Pardon ? Ça s'appelle la berceuse parce qu'elle tient dans la main, vous le voyez, une petite cordelette, et que Van Gogh lui-même l'a appelée la berceuse. Hein. Et en fait, cette cordelette, elle semble lui avoir été reliée à un berceau qui était par terre et qui permet, en tirant, que le berceau bouge. Donc, Gélan est en train de garder un enfant. Voilà. Alors, ça, en fait, c'est pas Théo. C'est le docteur Ray. Le docteur Ray, c'est celui qui a soigné Van Gogh à Arles quand on l'a retrouvé, vous savez, un jour, avec l'oreille coupée, avec du sang partout. Et alors, vous savez, la version officielle donnée par Gauguin, c'est que, effectivement, Van Gogh voulait créer à une sorte de phalanstère d'artiste. Vous le disiez un peu tout à l'heure, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'il était très idéaliste, il voulait faire un phalanstère d'artiste, à la manière de, vous savez, ces idées des socialistes utopistes du 19e siècle. Sauf que, donc il fait venir Gauguin vient, au départ ça se passe bien, très vite ça se passe mal, l'alcool n'y a pas été pour rien non plus d'ailleurs, très vite ça s'est très mal passé, et vous savez que, enfin ce que dit Gauguin, c'est qu'un jour il y a une dispute dans la chambre de Van Gogh, il a sorti son rasoir, Gauguin un peu embêté est parti, etc., et Van Gogh était tellement exalté qu'il se serait tranché l'oreille. Ça c'est la version Gauguin. Seul à quel, à vous dire, je crois que beaucoup de gens se rangent. Y a-t-il une autre version possible? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est le docteur Ray, vous voyez ici, qui a été le docteur de Van Gogh. Et voilà, donc le portrait fait après. Donc la boucle est bouclée. Alors vous avez raison, ça c'est la fin de la période arlésienne, parce que c'est après qu'il y a la période saint-rémienne, et c'est bel et bien, bravo, hein, de l'asile de Saint-Rémy, hein, vous voyez là. Donc il va être à Saint-Rémy pendant une année, dans l'asile il va avoir un atelier pour lui, où il va vraiment pouvoir travailler, donc il va beaucoup produire, hein. C'est une période super productrice pour Van Gogh, hein, et il réalise toute une série de choses, dont ça, parce qu'il a des moments de rémission, des moments où ça va, d'autres pas. Il fait à ce moment-là, c'est ce ciel étoilé, c'est pas la nuit, c'est le ciel étoilé. C'est une autre version, vous voyez, mais très différente de la nuit étoilée. Hein. On voit qu'il y a des moments où quand même ça tourne pas de la même manière. Si vous voulez, hein. Voilà. Il réalise également ce portrait admirable, je trouve, hein. Cet autoportrait, qui est un peu l'équivalent dans le fond de ce qu'on a vu dans le tableau précédent. Hein. Portrait vraiment très, très fort. Et puis il réalise dans le jardin, parce que dans le jardin Saint-Rémy, il y a on le laisse aller, il peint, et donc il peint notamment ça, il y a d'autres choses encore. Les iris ont été peintes dans le jardin de Saint-Rémy. Et puis il y a effectivement la troisième phase, c'est-à-dire qu'en en mai 90, il va partir de Saint-Rémy pour aller à Auvers, parce que son frère Théo aimerait bien l'avoir près de lui, si vous voulez, parce que Saint-Rémy c'est plus loin que... Théo était à Paris, hein. Théo travaillait dans la maison Goupil. Il a d'ailleurs beaucoup soutenu, et moralement et financièrement, son grand frère, puisque Théo était le petit frère de Gauguin, hein, de Van Gogh, pardon, Vincent Van Gogh. Et donc, si vous voulez, pour Théo, c'était important d'avoir son frère pas trop loin, quoi. Or, il se trouve qu'il y avait le docteur Gachet, dont vous avez parlé, à Auvers. Donc, le docteur Gachet va prendre sous sa houlette, si j'ose dire, Van Gogh. C'est près de Paris, c'est pratique. Hein. Donc, voilà effectivement le portrait du docteur Gachet, qui en plus est peintre, le docteur Gachet. Hein, il peint, hein, et il est collectionneur. Hein, donc, il voit beaucoup de peintres. C'est Pissarro qui avait parlé à Théo Van Gogh de Gachet, et Théo s'est dit, bah, tiens, je vais revenir mon frère, puisque Gachet avait une sorte de spécialité avec les peintres, tout ça fonctionnait très bien, c'était près de Paris, c'était idéal. Sauf que sa femme va durer très longtemps, même s'il va réaliser beaucoup d'œuvres à ce moment-là, dont celle-ci, mais je crois qu'en deux mois, il y a 70 œuvres, hein, c'est quand même beaucoup. Hein. Il y a ça qui est à Auvers, en fait, et qui est le portrait de la fille du docteur Gachet dans leur jardin. Hein. Très beau tableau, qui très, très marqué par la Provence, effectivement. On voit derrière des... Hein, on a l'impression d'avoir un tableau provençal alors qu'on est à Auvers. Très marrant. Hein. Donc, très, très curieux. Et puis, c'est là qu'il fait ce tableau-là. Et je vous disais qu'il était important parce que c'est le dernier. En fait, ce tableau-là, c'est le dernier qu'il a peint. Et après l'avoir terminé, il s'est tiré une balle dans la poitrine. Voilà. Vous connaissez la suite. Ouais, c'est celui-ci. Ah, je ne voulais pas montrer le chant des corbeaux. Alors, je l'ai peut-être mis après, mais j'ai eu tort. Ah, bah oui, pardonnez-moi, je ne l'ai pas mis. Le chant des corbeaux, il a été fait à Auvers. Pardonnez-moi, j'ai oublié de le. Le chant des corbeaux, il est fait à Auvers sur Oise. Voilà. Alors, ce que je voudrais pour la demi-heure, la petite demi-heure qui reste, c'est qu'on regarde un peu des œuvres de la première partie de la carrière. Parce qu'on parle toujours de ces trois années-là, on en fait toujours tout un plat, et ça vaut la peine, parce que c'est quand même une force terrible. Hein. Mais on ne parle jamais du reste. Alors moi, je vous ai fait à nouveau un petit choix qu'on va regarder prestement, d'une vingtaine de photos. On va essayer de voir ce qui est le... Enfin, voilà, on va classer tout ça.
Ah, oui.
Je tiens à dire qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas de lui dans l'affaire.
Ah oui, ça nous étonnait.
Mais vous allez me dire tout ça.
Il y a un cimetière,
oui.
Une église détruite.
Oui, c'est les ruines d'une église.
Voilà.
Un cimetière autour. Oui, c'est d'une gaieté folle. Et alors.
Oui, c'est vraiment une ruine impressionnante.
Oui.
C'est toute la Hollande.
C'est Hollande.
Non, je sais pas.
Oui, c'est Hollande.
Oui, c'est Hollande.
C'est ça. Donc, on est bien devant une œuvre d'un artiste hollandais. C'est Van Gogh, ça ?
Oui.
Oui.
Ah oui, c'est Van Gogh.
Ouais.
Moi, je dirais Van Gogh à ses débuts.
Van Gogh à ses débuts.
Alors. Non, ça, c'est pas.
Ça, c'est pas. Bon, ça, c'est pas Van Gogh. Donc, là, c'est une de ces peaux de banane que je vous ai vissiées. Et vous n'avez pas glissé, donc je me suis fait avoir. Bien, pas Van Gogh.
Ça, oui,
oui. Là, c'est lui.
Ah, là, c'est lui.
Ah oui, c'est vrai qu'il a peint des vaches aussi.
Il a peint des vaches. Donc voilà, ça représente quoi, ça ? Semeur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Van Gogh, pas de problème. Très bien. Le semeur de Van Gogh.
On retrouve les jaunes.
Ah, les jaunes.
Ça
un piège, oh.
Non,
il y a pas de déjà.
Des dunes. Van Gogh, pas Van Gogh. C'est puissant en tout cas.
Oui.
C'est beau, hein. Il n'y a rien, il y a du jaune, un peu de brun, c'est réglé.
C'est une colline.
Une espèce de colline, une dune.
On retrouve son jaune quand même.
Pas mal quand même, hein. Eh bien, on verra. Vos vaches.
Non, c'est pas Van Gogh.
Ah non.
Non, parce que c'est pas Van Gogh.
C'est.
Lui,
à ses débuts. Lui, à ses débuts.
Ouais, non.
Il y avait Théo aussi qui peignait.
Théo peignait aussi, oui.
Théo aussi
peignait. Oh, bah tout le monde peignait. La Sorelle peint, le docteur Gachet peint, tout le monde peint.
C'est pas son style.
Madame Bosch peint, le frère Rossure.
C'est pas son style.
Bon, je vous sens un peu entre deux là. Je sens une salle partagée.
Non, c'est pas lui.
C'est une aquarelle. Une aquarelle,
oui. Il a fait de l'aquarelle.
Ben, je sais pas. Je me demande.
Il a tenté là aussi. Hein. Oui, ça pas le rapport. Il a fait des aquarelles en bas.
C'est possible pour le sujet.
Le ouais.
Sujet pas banal.
Sujet pas banal.
Des usines.
Des usines.
C'était
un peu. Des usines.
Je vous sens en suspens.
Ce qui est déconcertant, ouais. C'est que là, vous nous présentez des tableaux assez structurés,
avec des précisions.
Alors que ce qu'on a vu avant, c'était un peu.
Oui, c'est très différent de ce qu'on a vu avant, ce qui fait que il peut nous surprendre.
On ne les connaît pas.
On les connaît pas, on les voit jamais.
Oui, ça,
c'est possible.
Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est
possible. Oui,
c'est
possible. Oui,
c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est
possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est
possible. Oui, non.
On
sort, donc pas lui.
Non,
il n'aurait pas fait ça. Bah non.
Non, mais ça serait un moment
délicat. Ça, oui.
Ah ben oui. Ça, c'est lui, ça. Pas de problème.
Bon. Oui,
c'est lui, ça. Il avait très faim.
Ah,
ça c'est la Hollande. La langue éternelle, la Hollande des moulins.
Personne.
Il y a des Français qui habitent en Hollande. Hein. Il y a bien des Hollandais qui habitent en France.
Moi, je t'ai reçu. La façon dont tu présentes les personnages, on retrouve un peu ça dans sa période de vie. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt stylisés. Ils sont proches.
Ça fait penser à la nuit étoilée de tout à l'heure. Donc Van Gogh. On est là. Ah. J'essaie de. Je fais de la maïotique, moi. Non. Pas sûr. Hein. Chameau chou, voilà un beau titre. Il y a même des pommes de terre. Il y aurait peut-être même une carotte.
Oui. Oh, bah, si ça
me trouve, ça ne dit pas qui a fait ça et quand.
Van Gogh.
Il n'y a que des choses de lui.
C'est Paris.
Donc Van Gogh.
Très
tachiste. Pointilliste.
Ouais. Les dessins à l'encre, ils sont très.
C'est pareil, c'est tellement précis, il ne reconnaît pas. Il y a des précisions dans le détail.
Ouais.
De...
Oui, mais les styles sont tellement différents.
Bah oui.
Au départ, bah oui. Il a essayé. Quand
c'est possible.
Ouais.
C'est classique.
Ouais. Mais c'est classique, ça, justement.
Il arrive à Paris.
Ça, ça
il arrive à Paris. Donc c'est quelque chose de très différent, mais c'est peut-être lui quand même. Bien.
Mais parce que son style ressemble à la dame qu'on a vue tout à l'heure.
Ce serait Millet. Bon. Parce que ça vous rappelle quelque chose, ça ? Et alors, je viens tout à l'heure.
Oui, c'était le même. Il y avait des pages derrière.
Donc, il y en a un noir, un pas noir.
Un coloré.
Un coloré. Donc, c'est l'histoire de la variation sur les thèmes ?
Non.
Non, ça va être une étude.
Une étude. Il a pompé.
Le même thème a deux idées complètement différentes.
Un deuxième passage. De la gravure.
On l'a même idée, mais...
Pardon. Des... Pardon.
Il me semble, je crois, que Van Gogh admirait...
Voilà, donc ce serait une... Alors, c'est ça, c'est une œuvre de Millet ou c'est une œuvre de Van Gogh ou d'après Millet ?
C'est
une œuvre de Millet. Et l'autre est une œuvre... De Van Gogh. Donc ça, c'est une œuvre de Millet. L'autre était une œuvre de Van Gogh d'après Millet. C'est ça ? Ah, les deux, c'est Van Gogh. Ou l'inverse. Bon, avec ça, et c'est peut-être même pas du tout de Millet. Donc soit c'est pas de Millet, soit c'est Millet d'après Van Gogh ou Van Gogh d'après Millet, soit c'est dans les deux cas Van Gogh.
C'est ouvert.
Ou, c'est complètement ouvert. Très bien.
Là, c'est un pasteur, ça.
Un pasteur.
C'est
des nuits, un
pasteur, et donc
cette
fois,
c'est des nuits.
Oui, ça fait bien.
Ça bien aimé, ça. Bien, donc, Van Gogh, ok.
Non.
C'est un peu facile, ça. Une promenade où, à quel moment on est là ? À Paris, une promenade à Paris, très élégante, très impressionniste.
Oui, c'est pas un hasard.
Oui, mais peut-être qu'il a fait ça en arrivant.
Il a peut-être fait ça en arrivant.
Oui, pour trouver,
oui.
Pour
essayer. Voilà.
Pour essayer.
Oui, ça peut être sa première.
Donc avant, il fait son espèce d'église noirchonne, puis là, il apparaît, il fait des petites vues.
Il est quand même
petit. Il est
multiforme. Il
est multiforme.
Oui, parce qu'il a fréquenté les impressionnistes.
Ben voilà. Ben, donc voilà, il ouvre sa palette. Et voilà.
Oui, ça c'est lui.
Ah, ça c'est.
Ah, oui.
Là, c'est les mangeurs de pommes de terre, tout va bien.
Ah, ça, ça peut être lui aussi.
C'est lui aussi.
Peut-être.
Avec des peut-être.
Oui, c'est une période qu'on ne connaît pas.
Et ben voilà.
Moi aussi, c'est lui. Tout à l'heure, il a fait le pasteur, maintenant il fait la
bouche. Ah, ben voilà. Pasteur, donc Bill.
Oui, c'est cohérent. Oui, c'est bien. Très bien.
Oui,
ça rappelle.
C'est pas grave. C'est joli.
C'est joli. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il y en a, mais ça cause. Hein.
Non, mais c'est pas lui.
C'est pas lui.
Non, parce que là, il y a trop de petites touches, mais il n'y a pas les trois. C'est pas lui.
Non,
Il
y a donc là aussi je sens
en hauteur, non.
Ouais non bah, je sais pas tout à l'heure il y avait un balcon à Paris qui était en hauteur hein. Vous avez donné à Van Gogh
non c'est
pas lui
oh, oh,
Ça, c'est possible.
Ça, c'est tout à fait possible.
Ça, c'est période potache.
Période potache. Comme les deux squelettes de tout à l'heure. Hein?
Les deux squelettes de tout à l'heure.
Pardon ? Oh, il a essayé à plusieurs reprises. À Bruxelles, à La Haye. Voilà. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ça tourne mal. Soit au bout d'un ou deux mois, il lâche parce qu'il en a marre. Soit parce qu'il présente un concours, puis on trouve que ce qu'il fait est trop faible, alors on le vire. Enfin, voilà. Tout. Ça n'a jamais vraiment abouti. Il n'a jamais eu. Enfin, il n'a pas fait un cursus. Il n'a pas fait de cursus. Pardon ?
Oui,
oui. Donc ce serait lui. Voilà. C'est pas comme tout à l'heure. Voilà.
C'est pas
non. Oui. Ben, c'est comme la vue de Paris tout à l'heure. D'ailleurs, vous mettez ça, on dirait une calèche qui rentre dans la vue de Paris.
Vous d'ailleurs.
Un Paris un peu plat qui peut être du Gauguin.
Non.
De Van Gogh, pardon. Zut, j'ai coupé. Bien. Ok.
Ça c'est lui.
Alors, on fait les corrections. Ça, c'est lui. Bravo. Voilà. Ça, c'est leur. Vous posez la question, mais ça, c'est lui. Vous savez, au début de sa carrière, Van Gogh, il a travaillé dès 16 ans hein, dans cette entreprise où plus tard, Théo, son frère, va travailler, qui s'appelle l'entreprise Goupil. L'entreprise Goupil, c'était une entreprise française, d'ailleurs, mais qui avait des succursales un peu partout, à La Haye, à Londres, etc. Et cette entreprise était florissante. C'était une entreprise qui, à la fois, elle faisait des expositions d'œuvres d'art, mais également, surtout, travaillait sur la reproduction d'œuvres d'art, par des systèmes de gravures, de photographies. Ça marchait du feu de Dieu, partout où Goupil exportait. Et Van Gogh, à partir de 16 ans, a travaillé là, à La Haye, et puis ensuite à Londres, et puis ensuite à Paris. Ça se passait plutôt bien. Hein. Seulement, au bout d'un moment, à Paris, quand il était au siège de Goupil, il a trouvé que cette espèce de commercialisation de l'art ne lui correspondait pas du tout. Et le problème, c'est qu'il trouvait, si vous voulez, qu'en gros, faire commerce avec de l'art, c'était pas moralement convenable. Donc, le problème, c'est qu'il a commencé à parler aux clients. Et si vous voulez, les clients qui venaient acheter des choses, quand ils démontaient la baraque, évidemment, ça ne marchait pas très bien. Donc, en gros, il s'est fait virer de chez Goupil, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, il est devenu, ça avait commencé un peu avant, parce que c'est quand même un garçon qui très tôt est un peu repiffillé sur lui-même, un peu solitaire, etc., perturbé. Il va tomber dans le mysticisme, dès d'ailleurs sa vie londonienne, il l'est beaucoup, c'est le fils d'un pasteur, on disait tout à l'heure. Hein. Et donc, il va tomber dans un mysticisme exacerbé, et on va l'envoyer dans ce qu'on appelle le Borinage, qui est un secteur minier pas très loin de Mons, en Belgique. Et là, il va... beaucoup plus que prêcher d'ailleurs, parce que même s'il est une sorte de prêcheur plus ou moins professionnel, entre guillemets, il n'arrive pas trop à prêcher, ça se passe pas très bien, mais par contre il va être pris de beaucoup d'empathie pour les gens qui sont autour de lui, qui trouvent très miséreux dans une condition épouvantable.
à tel point que, au moment, on va trouver que c'est une figure de meneur, si vous voulez, et qu'on va virer du lieu, quoi. Mais il a fait toute une série de vues de ces borinages, dont ce que vous voyez là. Donc, effectivement, il y a un côté très exalté. Alors là, vous avez bien vu, moi qui pensais vous faire... En fait, vous avez bien vu beaucoup de choses. Je suis très déçu, je pensais vous faire hoqueter sur ce que je montrais. En gros, vous avez tout juste, quand même. Donc ça, c'est effectivement une œuvre de Van Gogh d'Apriney, car comme vous l'avez dit, il admirait énormément Millet. Il s'est dit que Millet, c'était le peintre qui avait des choses à dire à tout le monde, si j'ose dire, et notamment au peuple. Bon. D'où le fait qu'il a fait beaucoup d'œuvres d'après Millet. Ça, c'est un dessin fait par Van Gogh, d'après l'original du Millet. Vous avez bien identifié tout à l'heure. Vous n'avez pas chuté, donc bravo. Vous êtes tout à fait... vous avez tout à fait vu ce qu'il en était. Ça, vous avez eu raison aussi de dire que c'est tout à fait de lui. Ça, c'est de lui, n'est-ce pas ? Cette couseuse, c'est de lui. Donc vous voyez, un métier très naturaliste, très proche d'autres peintres du temps, mais vous n'avez pas chuté, parce que je vous ai montré une œuvre de Jules Breton, un contemporain, qui représente la même chose. Vous avez bien vu ce qui était de lui, ce qui n'était pas de lui. Bravo. Donc c'est le même genre de sujet, c'est la même école, si vous voulez, c'est la même équipe. Sauf que, peut-être qu'on commence à... Enfin, c'est un peu différent. Mais on a des sujets, vous voyez, très, très identiques. Ça, c'est de lui, effectivement. C'est une nature morte avec pommes de terre, choux, sabots. Et ça, c'est également de lui. C'est le clocher de la vieille église de Nunnen, et où sa famille a déménagé. La famille de Van Gogh a pas mal déménagé aux Pays-Bas, mais Van Gogh, vous savez, dès qu'il était à France, sa famille voulait y retourner, dès qu'il y était, il voulait en partir, c'était comme ça. Donc il est allé beaucoup, et il est revenu, puis il est reparti, il est revenu, enfin, c'est quelqu'un d'un peu instable, disons-le, mais il a représenté beaucoup de choses à Nunnen, ou dans les environs, c'est le cas de cette vieille église. Ça, c'est intéressant parce que c'est une œuvre, vous voyez, de Mondrian, que je vais vous montrer parce qu'on est fièrement dans des époques qui ne sont pas si lointaines. Et Mondrian, au départ, dans sa carrière, c'est aussi, on ne le voit jamais, est un artiste qui a fait beaucoup de choses comme ça. Vous voyez, on a une œuvre aussi très Millet, d'une certaine manière. Et on sent le même intérêt que Van Gogh a pu avoir pour Millet dans une œuvre telle que celle-ci de Piet Mondrian. Ça, c'est lui aussi. Œuvre extraordinaire, tout magnifique. Un tableau quand même d'une force, d'une puissance terrible, c'est d'une. Vous avez bien identifié ce jaune van Goghien dont il fera son miel plus tard. Et ça, c'est encore lui. C'est pêcheuses qui mettent, les femmes de pêcheuses qui font, qui étendent les filets sur les dunes. C'est de lui. Alors là, je crois qu'on le retrouve déjà beaucoup mieux. Et on sent bien cette empathie pour ces populations très populaires. Et ça, vous avez bien vu que c'était de lui. C'est d'ailleurs une des œuvres qui a été faite dans le cadre de l'élaboration des mangeurs de pommes de terre. C'est-à-dire, on est là à Nunnen, et il a comme ça pour triturer un certain nombre de paysans, etc., pour réaliser ce qu'il considère un peu comme étant à ce moment-là son grand tableau. Alors que ça, c'est de Cézanne. Je vais vous montrer, parce qu'il y a comme ça des œuvres de Cézanne qui jouxte vraiment. Bon, Cézanne, lui aussi, a eu, vous savez, un parcours méridional, pour des raisons assez évidentes, d'ailleurs. Et donc... voilà, on a quelquefois des conjonctions qui peuvent vraiment nous faire rejoindre les deux artistes. Et voilà, donc les mangeurs de pommes de terre. Bravo. Ça, c'est effectivement de lui. Et vous aviez bien vu que, puisque c'est la Bible, on a là un fils de pasteur, lui-même souvent très mystique à ses heures, qui seulement représente l'objet même de son mysticisme, pourrait-on dire. Donc c'est une œuvre de lui, effectivement. Ce qui est le cas de ça aussi. Là, vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Voilà. Mais c'est bel et bien de lui. C'est bel et bien une œuvre de Van Gogh. Voilà. Mais très, je dirais, très... très dans la veine, parce qu'il fume un clope quand même, vous voyez. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans quelque chose qui fait beaucoup penser à ça. C'est de l'on sort, vous l'avez dit, bravo. J'ai vraiment essayé de vous tendre des pièges, mais j'ai réussi à rien. Pour cette dernière séance, je me ramasse. Enfin bon, c'est comme ça. Mais ça dit, c'est intéressant, parce qu'on voit quand même cette espèce d'école belgo-hollandaise qui tourne quand même un peu dans le même chaudron, si vous voulez. Et ça, c'est je crois, assez amusant, assez intéressant. Voilà, les godillots, les souliers, c'est de lui, effectivement, vous l'aviez bien vu. Et ça, c'est de lui. Ouais. Ça, c'est le seul endroit où vous avez buté. Je suis assez fier. Voilà. là, c'est en fait une vue effectivement. Mais vous aviez raison. Hein. C'est-à-dire qu'il va à Paris, vous l'aviez dit. Hein. Il va à Paris, en fait, il change absolument son regard. Hein. Il change son regard. Il rencontre des impressionnistes aussi. Hein. Donc, ben voilà, ça change vraiment son regard sur les choses. Et alors, cette œuvre-là, on peut la placer assez proche de celle-là. Et cette boîte de chocolat est de Toulouse-Lautrec. Parce que Toulouse-Lautrec, au départ, il fait des œuvres tout à fait de ce genre. Hein. Alors, sauf que là, on est allé sur la promenade des Anglais. Mais vous voyez, on est dans cette même élégance de la belle vie, pourrait-on dire, fin de siècle. Hein. Et ça, c'est une vue de lui. Alors, il ne voit pas Paris que sous des jours heureux et lumineux. C'est une vue de Paris depuis Montmartre. Hein. Et d'ailleurs, ce moulin tout à fait hollandais dont vous parliez tout à l'heure, c'est en fait le moulin de la Galette. Donc, avec un arbon français, on est en France. J'ai bien essayé de vous amener dans d'autres directions, mais vous verrez. Bon, voilà. Donc, c'est de lui aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer ? Ben, j'ai ça, que vous connaissez, que vous avez parfaitement identifié. Et ça, qui est absolument de lui, vous l'avez également trouvé. Bravo. Et c'est une œuvre très impressionniste. Hein. Oui. Et ça rappelle des gens comme Caillebotte, par exemple. Hein. Donc on est vraiment sur quelque chose. Là, on voit bien que à Paris, alors c'est pas encore le Sud, hein, il va quitter Paris au bout de quelques années, hein, parce qu'il en a un peu marre. Je crois qu'il est resté 2 ans à Paris, pas très longtemps. Hein. Mais cette ville bruyante, il y a du monde, c'est là. Ça lui convient pas. Mais enfin, il en fait son miel, il voit beaucoup de monde, beaucoup d'autres artistes, et ça donne des choses comme ça. Par contre, pas ça, parce que ça, c'est Caillebotte. Hein. Hein. Donc là aussi, j'espérais que... Eh ben, non, mais, bon. Donc vous êtes fortiche. Hein. Bon, mais en fait, comme ça...
On a un beau prof.
Oh. Voilà. C'est le prof, il est pour rien. Comme d'habitude, le quart d'heure caricature, n'est-ce pas ? Alors, il n'y en a pas non plus des masses. Finalement, j'ai été surprise, parce que je pensais, ben non. Alors, il y en a quand même quelques-unes. Ça, c'est la seule que j'ai trouvée à partir des tournesols. Hein. Vous voyez le gars qui ramène son bouquet de tournesols la nuit, un peu entre deux, on va dire. Je trouve que c'est assez poétique, un peu triste aussi. Par contre, alors, on trouve des tonnes de caricatures représentant Van Gogh lui-même. Alors, celle-là, je trouve assez poétique, hein, au milieu de ces scintillements qu'on a vus dans les étoiles tout à l'heure. Il y a des caricatures un peu plus... voilà, nous avons ça, qui est un peu... Où il mange son oreille. C'est d'un goût un peu moyen, je trouve. Hein. Mais enfin, bon, voilà, c'est... Et puis il y a celle-là qui est peut-être un peu plus amusante. Voilà. Donc c'est plus l'homme que les œuvres qui font caricature. Mais enfin, encore une fois, le fait qu'il y ait des caricatures montre assez la popularité de ce peintre-là. Et ben voilà. Vous avez été remarquable, vraiment là. Ben oui. Thank you.